Alors, pour cette quatrième et avant-dernier entretien, je voudrais qu'on laisse de côté peut-être aujourd'hui les thèmes ou on dirait l'iconographie de votre œuvre. On y reviendra demain. Et j'aimerais aujourd'hui vraiment qu'on parle de votre travail matériel, c'est-à-dire de l'aspect matériel de votre travail, dans son rapport, bien sûr, avec ces thèmes hein, qui parcourent toute votre œuvre. Et alors, la première chose dont j'aimerais parler avec vous, c'est l'importance des livres dans votre travail. On en a assez peu parlé ces derniers jours. En fait, depuis le début, vos premières œuvres, semble-t-il, ont été des livres. Depuis le début, vous avez une production de livres considérable et qui se continue, vous en faites encore régulièrement aujourd'hui.
Alors d'abord, je veux peut-être je dise quelque chose sur la matérialité, sur le matériel. Alors pour moi, le matériel, c'est aussi spirituel. Alors je ne fais pas la distinction entre l'idée et la consécution, non, la
L'exécution.
L'exécution. Alors, je ne suis pas platonique,
Platonicien.
platonicien, qui dit que l'idée, c'est l'idée. Et puis, ce qu'on voit sur Terre, c'est un reflet de l'idée, surtout un reflet pas parfait de l'idée. Alors, moi, je crois que l'esprit est même dans les choses, dans le matériel, alors dans le plomb, dans la paille. Il y a un esprit déjà qu'il faut découvrir, qu'il faut dévoiler. Alors ça c'est la question principale.
Absolument.
Mais non, les livres, oui, c'est vrai, les livres, c'est mon œuvre principale. C'est pas très connu, parce que c'est difficile de montrer les livres au public, surtout maintenant le public est très nombreux, alors il y a des milliers de spectateurs toujours. On ne peut pas laisser tourner les pages, c'est impossible. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec les livres et je l'ai fait depuis régulièrement. C'est peut-être aussi dans la vie, on a toujours un rêve d'être quelqu'un qu'on n'est pas.
Oui.
Alors, mon rêve, c'était toujours d'être un poète.
Ah, ça c'est très intéressant.
Et je crois que chacun a quelque chose qu'il ne peut pas être. Qu'il veut être, mais qu'il ne peut pas être. Parce qu'on n'arrive jamais là où on veut. Je crois hier, on a parlé de ça. On n'arrive jamais là où on veut arriver. C'est
On arrive
toujours.
quelque part, ce qui est
Alors,
ailleurs, quoi.
le but est toujours ailleurs. Alors, être un poète, c'est peut-être impossible pour moi, mais c'est toujours mon rêve.
Mais on reviendra demain sur la poésie, la
Ah.
place très importante qu'elle a dans le travail des tableaux et aussi dans les livres, puisqu'il y a des titres de livres qui sont inspirés de poèmes. Ça, j'aimerais qu'on y
Peut-être cette nuit,
revienne.
je transformerai en poète et puis
Mais
me trouverai ailleurs.
alors, justement, ces livres, donc, en même temps, ne sont pas des livres de poésie. Ce sont des livres de plasticiens, ce sont des livres d'artistes.
Oui, ce sont des livres. Alors, je fais aussi parfois un livre qu'on imprime, qu'on édite, non, on
Oui,
dit ça.
oui.
Mais la plupart de mes livres, ce sont des livres uniques.
Et ils ont énormément évolué entre les premiers livres des années 70 et puis ils ont évolué à la fois comment dire, en technique, en dimension, en matériaux.
Oui, ils sont suivis le parcours normal, comme les tableaux aussi. C'est une évolution, oui.
Oui. Et en particulier, ce qui me frappe, c'est que ces livres qui au début étaient dans le fond des livres de petit format, se sont progressivement agrandis, très normalement.
Non, ça, on ne peut pas dire.
Non?
Non,
Il y en
non.
a toujours des petits.
Non, non, les premiers livres que j'ai d'ailleurs exposés à Montpellier, il y avait une
Oui.
exposition 100 artistes dans la ville de Montpellier, 71. Alors, ils avaient déjà 1 mètre, hein, quand même. Alors, les formats, c'était toujours le même. Hein. Quand j'étais écolier, non, étudiant, j'avais toujours presque le même format.
Déjà le grand format.
Oui.
Alors disons, ils ont évolué dans l'emploi des matériaux.
Oui, ils ont changé. Ils ont changé l'aspect un peu, oui, parce que. On change.
Alors ces livres, à la fois sont des objets uniques, à part ceux qui sont édités ou publiés, mais la majorité sont des livres uniques, et ces livres, même vous les rassemblez dans des bibliothèques. Que vous fabriquez à cet effet. Je pense, par exemple, moi, une des œuvres les plus, je trouve, extraordinaires de votre sculpture, c'est la grande double bibliothèque. Alors, je donne le titre en français, c'est Mésopotamie, la grande papesse. Et ça, j'aimerais que vous nous en parliez.
Oui, ça s'appelle Zweistromland. Alors, ce sont deux deux grandes étagères de livres. Et entre les deux étagères, il y a un verre très épais qui les sépare et un câble de cuivre qui fait le transit d'un à l'autre, alors de Frat à Tigris, par exemple. Mais ce sont là des livres de plans qu'on ne peut pas prendre. On peut le prendre, mais avec 4 ou 6 personnes, un livre. Mais chaque page est travaillée. Alors, il y a des tableaux. J'ai peint là-dedans, il y a des photos, etc. Et ça me fait plaisir de les enfermer et de les enfermer.
Mais combien pèse à peu près chaque volume en plomb, donc?
Ah oui, ça fait entre 150 et 400 kilos, un volume, parce que c'est du plomb. Mais c'est. Oui, c'est ce que j'aimais, c'est la paradoxie. Alors, un livre, c'est comme. Normalement, c'est fait pour tourner les pages, pour lire. Et ça, c'est comme une tombe.
Oui.
Mais normalement, ils sont enfermés. Et pour moi, c'est aussi une question de luxe. Parce que ce n'est pas à consommer tout de suite.
Ça, c'est formidable, effectivement. Et ça met le spectateur de la bibliothèque en position de désir de savoir,
oui,
et impossibilité de savoir.
Oui, mais ça, c'est aussi si vous voulez, un mythologème, parce que il y a le, c'est comme le Jünglinge zu Sais. C'était un poème de, je crois, de Novalis, les disciples de Sais. Qui sont devant un statue d'un dieu qui est voilé.
Mm-hmm.
Vous vous souvenez peut-être,
oui.
Voilé, et personne n'a le droit d'aller derrière.
Mm-hmm.
Il y a un poème, mais je ne sais plus de qui, c'est un poème très très beau, où il décrit que quelqu'un va derrière, dévoile alors l'énigme, le secret, et il ressort le lendemain complètement fou, cliniquement fou. Mais ça, c'est un mythologème qui existe dans plusieurs variantes.
Ouais. Et alors, l'œuvre s'appelle, elle contient, il y a eu un catalogue de la Vérité Expo, au moment où elle a été réalisée, il y a eu un catalogue réalisé par Dauphé, je crois,
oui.
à Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que les livres ont été photographiés, le contenu des livres ont été photographiés. Il y a un classement très intéressant qui est proposé par le catalogue. Mais en même temps, ce catalogue est impossible parce que, entre le moment où les livres ont été photographiés, où le catalogue a été fait, et le moment où l'œuvre a été achevée, d'autres livres ont été ajoutés. Qui n'ont pas été photographiés. Donc, même si on peut
Oui, il y avait un peu de chaos.
Oui.
Parce qu'en installant les livres. Alors, il fallait toujours le déplier, l'étagère, parce que ce n'était pas transportable comme ça. Et comme ça, il y avait d'autres livres qui sont entrés, d'autres qui sont sortis, peut-être.
Oui, donc ce catalogue même est un catalogue d'un savoir qui est là accumulé, mais catalogue incomplet.
Le catalogue,
l'auteur le dit d'ailleurs.
Est un document d'un certain stade de l'œuvre.
C'est ça. Oui. Mais l'œuvre actuelle, maintenant, par contre, elle est terminée.
Oui, oui.
Mais il n'y a, son catalogue complet n'existe pas.
Peut-être il n'est pas terminé, mais il est là.
Elle est là.
Et il n'est plus chez moi. Mmh. Alors, je ne peux plus rien faire.
Et alors, le titre de l'œuvre, vous avez évoqué Zweistromland, c'est-à-dire Mésopotamie, le pays des deux rivières.
Oui.
Mais il y a un deuxième titre.
Mais Zweistromland, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a deux étagères. Alors, et Zweistromland, ça inclut plus de... Plus de signification, parce que Zweistrom, tu comprenez,
oui, bien sûr, double courant, deux
courants. Ça implique aussi une dualité, peut-être, ça implique peut-être tout le gnosticisme. Il y a beaucoup plus de choses, mais Mésopotamie, c'est un terme géographique. Hein. C'est là où il y a cette culture.
Alors, en français, on devrait le traduire comment? Si on devait donner le titre en français, Pays des deux rivières ou Mésopotamie?
Oui, si c'est beau, Pays des deux rivières.
Ah oui, c'est beau.
Alors bien, Pays des deux rivières. Mais ça existe peut-être déjà, non?
Et alors, le deuxième titre de la Grande Bibliothèque, c'est The High Priestess. C'est-à-dire, en français, la traduction, c'est la papesse.
Oui.
C'est un des arcanes majeurs du tarot. Alors, voilà, qu'apporte par rapport à ces livres?
Ah oui, j'avais le même problème comme on a maintenant avec la traduction. Et c'était difficile à traduire en anglais, c'était presque impossible. Et puis, comme je fais quand j'ai des problèmes, je regardais le tarot.
Oui.
Mais c'est plutôt à vous, peut-être, de définir le significatif de ce titre. Moi, je le sais, je le sens. Mais il y a peut-être quelque chose à expliquer intellectuellement.
Et alors, vous avez toujours été intéressé par le plomb?
Oui. Oui, mais ça venait pas d'une lecture ou une chose comme ça venait d'expérience du matériel lui-même. Alors, j'avais une très vieille maison en Allemagne qui avait encore des conduites de plomb. Et là, c'est très intéressant parce que comme on est attiré par un métal, par un produit, par un matériel, sans savoir trop au-dessus, intellectuellement. Mais on est attiré. Alors j'étais très très attiré. J'ai commencé à travailler avec ça depuis 75, je crois. Et depuis, j'ai compris beaucoup sur le plan aussi dans l'alchimie, dans les anciens livres, que ça veut signifier, etc.
Il me semble qu'une une des premières œuvres en plomb, enfin, une des toutes premières interventions dans l'œuvre, dans les tableaux du plomb, ça a été une palette. Est-ce que je
Oui,
me trompe? Oui, c'est
c'est
ça.
une palette.
La palette du peintre.
Oui, la palette
Oui.
du peintre, oui. Oui, c'est un peu paradoxe, hein, parce que palette de plomb, c'est très lourd. Hein,
Oui, j'imagine.
oui.
Et alors, la quantité de plomb, je sais qu'en fait, ce que vous avez utilisé, que vous continuez à utiliser, en fait, elle vient ensuite, à un moment, vous avez acheté le toit de la cathédrale en plomb de Cologne.
Oui, j'ai acheté le toit entier. Alors, parce qu'ils ont refait, il y a, je crois, il y a 15 années maintenant, ils ont refait le toit de la cathédrale de Cologne. Et là, il y avait de plomb du 15e siècle. Parce qu'une fois, la construction de la cathédrale était coupée, et puis dans le 19e, ils ont fini,
C'est
hein,
ça.
enfin. Et j'ai acheté tout le. Alors, ça me faisait plaisir un peu d'avoir le toit de la cathédrale. Et aussi, je trouvais ça intéressant de mettre un toit de plomb sur une église.
Oui.
Ça coupe toute la grâce de Dieu, non? Et
C'est vrai, c'est vrai.
peut-être pour cette raison, la situation de l'Église catholique est tellement funeste.
Oui, à Cologne peut-être. Mais à
Partout,
Saint-Pierre, le
partout.
toit n'est pas en blond,
Et c'est pas en
en
plomb.
plomb, pas à Saint-Pierre de Rome, non. Je ne pense pas. Non, je crois qu'il est en cuivre et en pierre aussi.
Cuivre, par contre, ça laisse passer.
C'est ça. Et le plomb, alors, vous le travaillez comment?
Ah oui, on le coupe, on le soude.
On le soude.
On le soude, on le plie.
Vous l'oxydez aussi?
Oui, alors en Allemagne et aussi en France maintenant, je le mets partout. Alors je laisse travailler le temps, la pluie, les températures, ça peint.
Ah oui, c'est ça, ça prend des couleurs absolument
Ouais,
extraordinaires.
il y a des couleurs rouges, vert, oui.
Et c'est très frappant aussi quand on tourne ces pages des grands livres de plomb, je reviens au livre, c'est le fait que si l'objet pèse 150 kilos, la page elle-même se tourne assez facilement. Chaque
Oui,
page n'est pas trop
c'est très
lourde.
flexible,
Oui,
c'est
et
très
c'est très
flexible.
souple. Il y a un
Oui,
rapport aussi sensuel, curieux avec ce
oui,
plomb.
oui, oui, oui.
C'est
C'est
vrai, c'est
clair,
très
hein.
curieux.
Oui.
Et alors
Et
le.
aussi, on peut le fondre facilement. C'est à 30-50 degrés, c'est pas beaucoup. Et en Allemagne, on fait au Nouvel An, à la veille du Nouvel An, et on fend le plomb et on laisse tomber dans l'eau. Et puis on essaie de prédire
L'avenir.
l'avenir. C'est une chose populaire.
Mais il y a certaines de vos œuvres, justement, qui sont fondées sur du plomb jeté dans l'eau et qui se refroidit.
Oui,
Hein?
c'est ça.
Émanation.
Oui, alors ça c'est plutôt jeté sur la terre, parce que
C'est ça. Il est fondu et jeté.
et puis on met pas mal de l'eau pour stopper l'écoulement quand on veut, hein. Parce que ce que l'artiste fait, c'est plutôt diriger un peu Netsufa. Diriger un peu l'hasard.
C'est ça. Et si bien que ce plomb, en fait, qui est devenu presque une de vos signatures, enfin, parce que à l'exposition de la Salpêtrière, justement, la brisure des vases, je me rappelle en particulier que je crois que c'était
L'émanation
il y avait émanation, il y
qui
avait
est
les
en plomb.
séphirotes, la descente des séphirotes aussi, où il y avait ces vagues de plomb. Le paradoxe dont on
Et
parlait il y a 2 jours.
oui, il a les vagues de plomb, oui.
Vagues de
Qui
plomb.
descendait du ciel, oui.
Voilà, alors ce qui va être le plomb est utilisé à la fois, enfin on a le sentiment que le plomb est utilisé pour sa présence matérielle, sensuelle, émotive, expressive
Et surtout spirituel.
et spirituelle.
Oui,
Alors
surtout.
justement, voilà, alors cette dimension spirituelle, est-ce que vous pouvez
Comme je l'ai dit au commencement, que le matériau, il a lui-même un esprit inclus là-dedans. C'est surtout pour moi, surtout avec le plomb. Et ça, on peut voir à travers l'histoire, les alchimistes, par exemple, ils ont utilisé le plomb pour la première étape pour faire l'or. D'ailleurs, la question de faire de l'or dans l'alchimie, ça correspond identiquement avec la question qu'on a évoquée hier ou avant-hier. Qu'un artiste, il fait toujours un plan, un concept, il arrive à autre chose. Alors, eux, les alchimistes, ils voulaient toujours faire de l'or. Parce qu'ils étaient même enfermés parfois, ligotés par les rois, parce qu'ils avaient toujours besoin d'argent, qu'ils fassent l'or. Alors, ils ne laissaient plus échapper. Et ils ont produit tant de choses. Ils ont produit, par exemple, en Saxonie, le porcelain. Ils voulaient produire de l'or, mais ils ont arrivé au porcelain.
La porcelaine de Saxe.
Ah oui, vous connaissez ça.
Bien sûr. Et alors, là, vous avez parlé d'alchimie, qui est aussi un travail, une transformation, de la matière.
C'est toujours l'alchimie, ça veut dire c'est une transformation, même métabolisme ou ce qu'on veut dire. Ils ne font pas d'autre chose que la nature, mais ils le font plus vite.
C'est ça.
Alors, ce qui dans la nature dure dans le temps. Moi, je suis toujours intéressé de combiner les temps. Alors, le temps cosmique, le temps géologique et le temps humain. Et dans le temps géologique, on peut dire que tout ce qui peut arriver arrive. Chez nous, pas tout ce qu'on peut arrive. Sinon, j'étais aussi un poète après. Hein. Et vous, peut-être, je ne sais pas quoi.
Je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi.
Chez nous, on ne peut pas dire ça. Mais dans le temps géologique, tout ce qui peut arriver arrive. C'est clair, parce qu'il y a, il y a des millions, des millions, des millions d'années. Alors, maintenant, en retour chez les alchimistes, ils ont développé des processus pour accélérer le temps, pour que le temps qui est trop lent, géologiste, entre dans la vie humaine. Mais ils ont dit que c'est très dangereux, pour ça il faut faire des préventions, etc.
Et vous-même, quand vous appelez un tableau, je pense à Athanor, par
Oui.
exemple, hein, qui peut être situé dans une architecture nazie.
Oui.
Alors, à ce moment-là, vous transformez l'architecture nazie et le tableau est l'Athanor de cette transformation.
Oui, parce que Athanor, c'est
Le
le
four, le
four, c'est
four.
le four des alchimistes. Ça veut dire c'est le centre, le cœur de transformation. Alors ça veut dire je transforme les architectures funestes, on peut dire funestes, les architectures funestes en des choses plutôt
Positive,
positives, on peut dire
positive.
peut-être, oui. Et pour cette raison, Athanor, je prends cette architecture.
Et alors, il y en a un autre que j'aime, que je trouve très extraordinaire de ces tableaux alchimistes. C'est le Hortus Philosophorum,
Ah oui, Hortus Philosophorum,
le jardin des philosophes.
oui, avec les sept. Je crois qu'il y a sept entrées. Sept entrées, et il y a le serpent qui joue un rôle important. Et au milieu, il y a le Stein der Weisen.
Pierre philosophale,
Ah, philosophale, ça c'est beau, oui,
qui est
phale, c'est un peu, oui.
oui. Pour une fois, ça peut être à peu près aussi beau.
Oui.
Non, justement, alors, on pourrait repartir à partir de là sur le serpent qui dans votre œuvre se trouve, mais circule à travers tous les thèmes et qui va jusqu'au serpent cosmique.
Oui, Ouroboros. Ouroboros. Oui, le serpent, c'est très important. Alors, le serpent joue un rôle très ambigu dans les mythes. Hein. Alors, en Égypte, c'était un signe très positif. Par contre, chez les Juifs, c'était déjà très ambigu. Et dans le paradis, alors c'était le serpent qui séduisait mais dans la mythologie égyptienne, c'est très positif. Alors, c'était d'ailleurs un serpent qui conduisait Alexandre chez les ruines des autres empereurs avant. Alors, il parlait avec le serpent. C'est un peu chamaniste, hein, parce qu'il savait parler avec les animaux, surtout le serpent qui est le plus intelligent que nous.
Alors, parmi tous ces matériaux, il y a à la fois la matière, dont vous avez dit au début justement que vous n'opposiez pas du tout à l'esprit, que l'esprit était dans la matière,
Oui.
mais il y a aussi les matériaux, je pense la paille, le sable, les cendres, il y a aussi des objets, des bobines de film parfois dans vos œuvres. Il y a des fragments de corps humain ou des morceaux de corps humain
Oui,
avec les cheveux, par exemple, les ongles. Comment est venue l'idée de la paille?
Oui, la paille, je l'ai utilisée plutôt comme miste, fumier, compost. C'est aussi la question de transformation, de métabolisme, parce que dans le compost, beaucoup de choses arrivent. C'est une dégradation, mais en même temps, c'est une résurrection de beaucoup d'animaux. Ça transforme. Et la paille aussi la paille, avant qu'il est transformé dans un fumier, c'est une couleur frappante, hein. Le jaune, et je l'utilisais par exemple pour le contraster avec la cendre. Alors, Margaret Sulamit, la cendre qui est déjà un autre état de transformation. Et ça correspondait avec le poème de Paul Celan, Todesfuge.
Oui, fugue de
Dein Blonde
mort.
sa Margaret, dein Aschner sa Sulamit.
Tes cheveux couleur d'or, Margaret, et tes
Oui,
cheveux couleur de cendre, Sulamit. Hein? Oui, qui joue un rôle très important pendant un moment, pendant une dizaine d'années à peu près. Le poème est très présent dans votre œuvre.
et c'est intéressant quand on étudie, j'ai trouvé après, il y avait déjà un poème d'un autre poète de Böhmen, le bon poème, qui avait les mêmes images.
Ah oui, les mêmes
Alors,
images, oui.
la cendre, la tente dans les airs, et les serpents aussi. Et c'était la paille et la cendre, c'était un thème qui allait plus loin que Paul Celan. Et lui, il a fait un poème qui était tellement parfait que ça restait dans l'oreille.
Mais ça c'est très intéressant. Alors, il y a un mot, un groupement, une alliance de termes. Je crois que vous l'empruntez à Celan aussi, qui est Aschenblume.
Aschenblume, oui,
Aschenblume.
c'est très beau, oui.
C'est fleur de cendre.
Une fleur, c'est une chose de éblouissement, non, on peut dire ça, d'explosion, de vie, de joie. Et si on combine ça avec la cendre, c'est déjà le produit de la métamorphose. Alors, il enlève, aufheben, il enlève le temps, parce qu'il met les deux choses en même temps. Aschenblume.
Il
Il
suspend
suspend le temps,
il
oui.
suspend le temps.
Il suspend le temps. Ouais.
Et vous l'utilisez dans des le même mot, Aschenblume, désigne des œuvres parfois très différentes. Une grande architecture
Oui.
nazie avec un tournesol renversé qui la barre au milieu.
Oui, parce que là, c'est très direct, parce que le tableau est vraiment plus rien, presque. Ça s'évanouit, non, ça se
S'évanouit. Ça
dissout.
s'évanouit, c'est ça.
Ça nuit presque, parce que c'est complètement couvert de cendres.
Mais dans notre cas, c'est un corps, le vôtre, couché au pied d'un tournesol.
Oui, ça c'est le vieux truc que chaque historien d'art connaît. Vous savez, normalement c'est un baume, un arbre
Un arbre.
qui sort de l'ombril de l'homme couché. Cette fois, c'est moi avec la tournesol. Alors ça, c'est une cohérence intéressante, correspondance intéressante entre l'homme et la nature. On peut dire aussi, pour revenir à Robert Flatt, entre la nature, l'homme avec le cosmos.
Voilà, on retrouvait Robert Flood
Ouais.
et le micro et macrocosme,
Surtout
etc.
parce que j'ai utilisé les graines comme étoiles. Là, quand j'arrivais en France, j'ai vu des champs de tournesol énormes. Et quand je me couchais par terre pour photographier, et on voit ces fruits noirs en automne, hein, quand ils sont rêves,
Mûr, bien
mûrs,
mûr.
comme un firmament.
Et vous l'avez utilisé pour, l'histoire secrète des plantes,
Oui,
pour Robert Fludd,
ou cette obscure clarté qui
qui
tombe
tombe
des
des
étoiles.
étoiles, c'est ça? Tout un moment, le tournesol est au cœur de votre travail, parce qu'il est dans le fond la liaison
Oui.
entre le micro et le
Avant que
macrocosme.
j'aie découvert Robert Flatt.
Absolument.
Alors, c'est intéressant parce que j'ai pris ces graines comme des étoiles. Alors, ils ont des numéros de la NASA, comme ça, chacun. Et je l'ai pris comme étoile avant que j'aie lu ça chez Robert Flatt. Chaque plante sur Terre a son correspondant dans les étoiles.